Voilà, je suis de retour. Oui, d'abord, j'aimerais, avec Yvette, vous remercier pour tout ce qui s'est passé. J'ai un peu perdu la notion du temps avec tout ça. Ce qui s'est passé l'autre dimanche avec cette petite fête de 20e anniversaire de notre présence ici à Chaux-de-Fonds. Et puis surtout, tous ces petits mots gentils que vous nous avez envoyés, ces cartes magnifiques. Pendant un mois, j'ai pris des médicaments, mais je peux vous dire que chacun de ces petits mots, je les prenais comme un médicament pour mon âme et mon cœur. Et ça faisait vraiment du bien. Et on est fait pour ça, pour se dire des choses gentilles, n'est-ce pas? Des choses qui nous font du bien, des choses qui édifient, des choses qui viennent rencontrer notre cœur, notre âme, nos sentiments, nos émotions. Et vous l'avez bien fait, merci. Continuez, vous pouvez aussi le faire entre vous, hein, vous envoyez des cartes de temps en temps, ou, voilà. Par sa grâce, le Seigneur a quand même mis en moi une parole. Voilà, j'ai commencé à y réfléchir, à y penser, et j'aimerais simplement partager là quelques réflexions ce matin sur le thème que je vous présenterai tout à l'heure. Simplement dire aussi que, au travers des trois messages précédents que je vous avais partagés sur la vie d'Abraham, je vous avais encouragé, ou la parole de Dieu nous encourage, à être les imitateurs de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Hébreux 6, 12. Que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc Abraham est connu pour être le père des croyants. On a un père dans la foi. On a quelqu'un qui nous donne un exemple. La parole de Dieu nous dit aussi que tout ce qui leur est arrivé a été fait pour nous servir d'exemple. Donc on voit que dans chaque personnage biblique, il y a des exemples, il y a quelque chose à retirer. C'est quelque chose qui peut être très fort. En 1 Corinthiens 11, 1, Paul dira « Devenez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Imiter, ça signifie reproduire l'allure de quelqu'un, le comportement. Prendre pour modèle et lui ressembler en tout point de vue. Donc, quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à imiter, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Hein? Qu'est-ce que vous avez essayé d'imiter dans votre jeunesse?
Johnny Hallyday.
Ah ben, bon courage. Mais c'est pas faux, hein? Vous avez d'autres exemples que Johnny Hallyday? Sa maman, magnifique. Moi, j'ai essayé de ressembler aux Beatles. Alors, c'était rigolo parce qu'elle avait des barbes à l'époque. C'était la période hippie. Alors, essayez d'imaginer les Beatles avec leur coupe là, de cheveux. Et puis, ça ne marchait pas trop bien. Donc, je me suis rapproché de Johnny Hallyday. Ouais, c'est vrai. Mais on a tous essayé d'imiter quelqu'un, n'est-ce pas, dans notre jeunesse, d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui m'a marqué depuis le début de ma conversion, dans les années, début des années 70, c'est que j'ai tout de suite eu des gens en point de mire. Je me souviens combien j'ai été ému par l'attitude de David Wilkerson. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont vu le film La Croix et le Poignard. Et je ne sais pas pourquoi, dès ma conversion, j'avais à cœur, nous avions à cœur avec ma femme et le groupe de jeunes, les drogués de la ville de Bienne. Hein, ils étaient nombreux en vieille ville autour de l'église. Et je voyais ce David Wilkerson prendre dans ses bras et rempli d'amour ces drogués, j'avais été profondément impressionné. Je me souviens aussi les petites sœurs de Darmstadt, je ne sais pas si vous connaissez. C'est extraordinaire la foi que ces femmes ont eue pour faire d'un lieu qui aurait dû être traversé par une autoroute et par des centaines de bâtiments, d'habitations, un lieu réservé pour Dieu, le Canaan de Dieu. Et elles y sont arrivées, c'était extraordinaire de lire leur histoire. Si vous pouvez la lire, lisez-la. Corrie ten Boom aussi, avoir un amour tel pour Israël qu'on est prêt à se laisser transporter dans un camp de concentration. Enfin, je pourrais donner plein d'autres exemples. Lorraine Cunningham au niveau de l'évangélisation, les bateaux de Jem. Et tout ça, c'était pour moi des gens que je voulais imiter. J'avais envie de leur ressembler parce que je voyais dans leur vie la présence de Jésus, l'œuvre de Jésus. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup fait de bien. Donc, peu importe la saison où vous vous trouvez, vous trouverez toujours des gens qui peuvent vous inspirer, qui sont proches de vos rêves, ou les ont accomplis, et, ou qui sont impliqués dans quelque chose qui vous est proche, parce que ça répond à quelque chose que Dieu a placé dans vos vies. Et
je vous encourage beaucoup à lire leur histoire, à essayer de voir comment ces gens en sont venus à servir Dieu peut-être dans tel ou tel domaine. Les étapes par lesquelles ils ont passé, les épreuves, les luttes, les combats, les victoires aussi. Et tout cela fait que ça édifie notre foi. Imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Mais il y a un dénominateur commun par rapport à toutes ces personnes, à tous ces personnages, autant bibliques que contemporaines, c'est que dans leur cœur, ils avaient une envie folle d'imiter Jésus. Leur désir, c'était d'imiter Jésus, c'était de lui ressembler, c'était de reproduire l'allure de Jésus, le comportement de Jésus. Ils le prenaient pour modèle. Et c'est bien compréhensible parce qu'on sait bien que l'homme est faillible. Et nous savons très bien, l'histoire nous le démontre aussi, que oui, de grands ministères ont fini dans des impasses. De grands ministères ont connu des temps de disgrâce. L'homme est faillible, même le plus grand, même le plus saint, même le plus pur, même le plus parfait peut tout d'un coup se retrouver dans une situation. Donc, on peut pas prendre, donc, je dirais qu'on ne prend aucun risque, et on met tous les atouts de son côté si on a effectivement les regards sur Jésus. Hébreux nous dit, ayant les regards sur Jésus, dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Amen. Donc en fin de compte, si d'autres ont été source d'inspiration pour vous, dans un domaine ou dans un autre, c'est vers Jésus que doivent se tourner nos regards. Pour découvrir comment lui a vécu, comment lui a pensé, comment est-ce qu'il a vécu cette relation avec son Père, comment il a passé au travers des difficultés, des épreuves, et il en a eu, comment il a remporté aussi de grandes victoires pour la gloire du Père. Et nous pouvons nous laisser instruire par lui, dans l'appel qui est le nôtre, dans le ministère qui est le nôtre, dans la vocation qui est le nôtre, qui ne demande qu'à apparaître à un moment donné de notre vie chrétienne. Il y a quelque temps en arrière, Florence vous a parlé de l'importance de la sacrificature. On lit des termes parfois dans la Bible et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Un sacrificateur pour Dieu, ça veut dire quoi? Mais c'est une chose de le lire. C'en est une autre de le faire nôtre. C'est, oui, je suis concerné par cette parole. Je ne veux pas simplement me contenter de la lire et dire « Ah oui, c'est très bien hein ». Donc ce matin, j'aimerais vous encourager, au travers d'une parole qui se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 8, verset 18. « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? » À l'époque du prophète Ésaïe, les temps étaient durs. Ésaïe était profondément touché ébranlé par l'état spirituel et bien sûr moral, parce que quand l'état spirituel ne va pas bien, ben la morale elle ne suit pas non plus, du peuple d'Israël. Israël refusait la lumière de Dieu, refusait la manière de voir, de comprendre, de vivre de Dieu, et par conséquent s'éloignait de son enseignement, et par conséquent aussi, le peuple entrait dans ce que Ésaïe appelle les ténèbres. Au verset 21, il dit « Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, sombre angoisse, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Voilà la situation dans laquelle se trouvait Israël. Il consultait ceux qui évoquent les morts au lieu de consulter son Dieu. Ésaïe est à l'écoute de Dieu dans cette période de l'histoire. Et au lieu de se plaindre de tout, comme on a facilement l'habitude de le faire, en étant à l'écoute de Dieu, Ésaïe va prendre conscience dans une espèce de révélation fulgurante qu'il a un rôle à jouer en Israël en ce temps-là au nom de l'Éternel des armées. « Voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées. Ésaïe prend conscience à ce moment-là qu'il a un rôle à jouer, lui et les enfants que Dieu lui a donnés. Dans un monde qui tourne à l'envers, au lieu de subir la situation, il entre dans une attitude proactive. C'est-à-dire qu'il va se mettre en action. Ils ont quelque chose à faire. Ils ont quelque chose à dire face à la mentalité du monde ambiant. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, il est dit, répondez. Répondez. Dites quelque chose par rapport à ce qui entraîne cette société loin de Dieu. Alors, c'est quoi être un signe et un présage? Un signe, c'est quelque chose de visible. C'est quelque chose qui porte un message. Vous avez peut-être un exemple. L'arc-en-ciel, c'est un signe, n'est-ce pas? Pour nous, chrétiens, on sait ce que ça signifie. Vous pouvez prendre d'autres signes. Un stop, ça contient tout un message, n'est-ce pas? Ça a l'air de rien. C'est planté au bord de la route, et puis c'est marqué stop. Puis tout le monde s'arrête. Enfin, il y en a des qui passent tout droit des fois. Mais en principe, c'est un signe qui vous donne un message. Arrêtez-vous. Hein? Voilà, c'est très simple. Et un présage, c'est quoi? C'est pouvoir juger de l'avenir ou avoir un regard éclairé sur ce qui va arriver. Donc si je suis appelé à être un signe et un présage, voilà ce que je devrais être censé transmettre. C'est d'une part être visible, d'autre part être porteur d'un message et avoir un regard éclairé sur l'avenir proche, lointain. Dans notre société, il y a plein de gens, dans plein de domaines, qui se font visibles. Moi, président. Et ils sont porteurs de messages. Et ils font des prédictions sur l'avenir. Mais on voit très bien qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Malheureusement, parce qu'on aimerait le succès. On aimerait qu'on ait des bons présidents. On aimerait qu'il y ait des gens qui nous donnent une bonne perspective de l'avenir. Mais on voit qu'effectivement, bien souvent, tout s'arrête dans une impasse. Détresse, obscurité, sombre, angoisse, épaisse ténèbres. On entendait encore un reportage hier sur la France. Les gens sont terrorisés. Ils ne le disent pas forcément tout le temps, mais il y a une appréhension qui est là en eux, une espèce d'angoisse latente qui est là, cette crainte de se dire, mais waouh, si je vais là, ben, peut-être qu'il peut m'arriver quelque chose. Hein? Voilà. Mais quand on s'éloigne de Dieu, c'est à peu près ce qui se passe. On peut pas vivre autre chose loin de Dieu. Hein? Donc, peut-être l'avez-vous compris, la déclaration d'Ésaïe ne concernait pas seulement Ésaïe et les enfants que Dieu lui avait donné en ce temps-là, mais par anticipation, il annonçait ce qui allait se produire à la venue du Messie, à la venue de Jésus-Christ sur cette terre. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la suite du texte nous parle « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. » Donc Ésaïe, en même temps, vit ce moment présent, et il devient un signe, un présage pour Israël, mais en même temps, il annonce ce qui va arriver dans la suite des temps. Hébreux 2.13, c'est intéressant de voir que ce texte est repris et qui concerne Jésus en Hébreux 2.13. « Je me confierai en toi », donc c'est Jésus qui parle à son Père, « et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Et au temps marqué, Jésus est venu, et il est venu comme un signe et un présage de la part de l'Éternel des armées dans ce monde. Jésus s'est rendu visible à un moment précis de sa vie. Jésus était porteur d'un message révolutionnaire. Jésus annonçait avec précision les événements à venir. Il était le signe et le présage par excellence dans ce monde. Alors bien sûr, ça n'a pas échappé à un certain nombre de personnes qui sont devenues des suiveurs de Christ. Quand quelqu'un parle bien, vous avez déjà remarqué, par exemple dans le monde politique ou bien dans d'autres domaines, ben, il y a tout de suite des suiveurs. Il y a des gens qui ils tendent l'oreille, ils disent « Ah ben tiens, ça c'est vraiment intéressant ce que ce monsieur ou cette dame disent. » Donc ils vont suivre Jésus. On les retrouvait à tous leurs meetings. Hein? Voilà, ils aimaient bien. Ils les suivaient dans les allées et venues de Jésus. On les retrouve un peu toujours les mêmes. Puis à un moment donné, un jour, Jésus leur dit, ben c'est bien de me suivre. C'est bien. Vous m'avez entendu parler, vous m'avez entendu dire des choses concernant le royaume de Dieu. Mais moi, j'aimerais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Hein? Des pêcheurs d'hommes. Bon, moi, je ne sais pas comment ils ont réagi. Hein? Ça devait être un peu étrange à leurs oreilles. Eux qui étaient pêcheurs, en tout cas quelques-uns, ils se posaient peut-être la question. Mais il est dit qu'aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Donc, ils vont suivre Jésus 24 heures sur 24. Et un peu plus tard, ils deviennent ses disciples. C'est déjà plus que de suivre Jésus de loin. Hein? Ah, il parle bien, ah, il dit des bonnes choses. Ouais, mais quand même, on peut discuter. Hein? Et ils deviennent ses disciples. C'est-à-dire qu'ils commencent à suivre la doctrine, l'enseignement, la manière de penser, le message. Et un peu plus tard, ils vont devenir des apôtres. Il est dit que Jésus choisit 12 hommes auxquels il donna le nom d'apôtres. Peut-être qu'il est bon de rappeler, parce que c'est un mot aussi apôtre, on se dit, oulala, on met tout de suite trois cercles de sainteté autour de leur tête. Simplement, le mot apôtre, c'est être envoyé en avant. Envoyé en avant. Hein? Donc, il veut les envoyer en avant. Ben là, on y arrive. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ils vont devenir les imitateurs de Christ. Dans un monde aussi troublé que du temps d'Ésaïe, ils vont être rendus visibles. Ils vont être porteurs d'un message extraordinaire. Et ils vont pouvoir porter un regard très précis sur l'avenir proche. Donc ils vont être aux premières loges. Ils vont être aux premières loges pour voir la manière dont Jésus s'y prend, quelle est sa stratégie, de quelle manière il s'y prend pour rencontrer les difficultés, les luttes, les combats, sa relation aussi avec le Père. Ils vont s'imprégner simplement de lui. À ses côtés, ils vont s'imprégner de lui. Ils ont les regards fixés sur lui. Ils ne le perdent pas d'une semelle. Et ils vont découvrir deux aspects. Et là, j'aimerais vraiment qu'on soit attentif parce que quand je vous dis ces choses, je ne vous le dis pas que pour vous. Je me le suis dit à moi-même déjà. Parce que lorsque j'ouvre la parole de Dieu, j'essaye de voir qu'est-ce qui vient me confronter. Pas seulement ce qui est agréable dans la parole, mais qu'est-ce qui dans la parole m'oblige à me bouger, m'oblige à faire un effort, m'oblige à sortir peut-être de ma zone de confort. Donc, ils vont découvrir deux facettes, je dirais presque différentes l'une de l'autre, mais indivisibles. Comme une pièce de 5 francs, vous ne pouvez pas enlever une face. Pour que la pièce de 5 francs ait de la valeur, vous devez avoir les deux faces. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir d'abord, de prime abord? Jésus, lorsqu'il vient dans ce monde, lorsque les temps sont accomplis, il vient manifester le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Les signes évidents du royaume de Dieu. Donc il va guérir des gens, il va rassembler des foules, il va les enseigner, il va être révélateur du royaume de Dieu. Il révèle l'amour de Dieu. Combien nous sommes aimés de Dieu. Et puis il va rassembler ce qui sera en fait les prémices de ce qui va devenir l'Église. Il va rassembler un certain nombre de personnes et il va en prendre soin comme un bon berger prend soin de ses brebis. C'est les prémices de l'Église. Il va les entourer, les enseigner, les former, les penser, les guérir. Il va simplement leur donner sa présence, leur donner de vivre sa présence. Ils vont goûter à la paix, ils vont goûter au repos. C'est un peu le ciel sur la terre, n'est-ce pas? Et par rapport à rien, c'est énorme ce que ces hommes et ces femmes vivent. Ça plane pour moi, surtout pour Pierre. Hein? Rappelez-vous, Pierre, il était prêt à ouvrir le premier camping chrétien là-haut sur la montagne. Il va vivre une expérience extraordinaire dans la présence de Jésus qui est transfiguré. Il y a Élie qui est là. Ouh là là! Extraordinaire! Il y a je sais plus qui, c'est qui l'autre, Moïse l'autre ? Moïse. Mais Seigneur, tu veux pas qu'on construise 3 tentes ? C'est tellement extraordinaire. Mais c'est le ciel sur la terre. Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressant 3 tentes. Moi, j'aurais fait la même chose. Première semaine, c'est gratuit, puis après, on fait payer. Hein ? Et ça, c'est vraiment le côté agréable, n'est-ce pas ? C'est le côté agréable à imiter aussi. L'Église, elle est faite pour ça, n'est-ce pas ? Elle est là pour ça. Les enfants que Dieu m'a donnés vont servir à cela. Normalement, quand on arrive dans une Église, on est accueilli. On est les bienvenus, même si on ne connaît personne. Et puis après, on prie pour vous, on prend soin de vous, on vous visite, on vous propose plein de choses. On prie pour votre guérison, on prie pour votre... Pour que vous naissiez de nouveau, tout ça, ça c'est vraiment le côté agréable. L'Église, c'est un peu le ciel sur la terre. C'est là qu'on expérimente la présence du Seigneur. C'est là qu'on vit ses premières... C'était incroyable au début à Bienne, quand je suis arrivé dans l'église de réveil, puis que j'entendais les gens prier à haute voix, puis après je voyais les gens prier les uns pour les autres, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici dedans ? Mais c'est incroyable, j'avais jamais vécu ça. Et ça, c'est vraiment le côté agréable. Dressons 3 tentes. On est tellement bien entre nous, n'est-ce pas ? Amen. Amen. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la première facette. Eh oui, c'est la première facette. Mais le danger ou le risque, c'est de se cantonner dans cette sphère-là presque uniquement. C'est de privilégier de manière presque exclusive cette sphère-là. Et on se comprend. J'aime vivre des moments paisibles. J'aime vivre des moments où on prie pour moi. J'aime vivre ces moments où on m'écoute, où on prie pour ma guérison. Oui, ça fait partie. Et Jésus est venu pour cela. Il a donné vie à l'Église pour cela. Mais lorsqu'on veut imiter quelqu'un, et lorsqu'on veut imiter Jésus, on doit être plus proche de toutes les facettes de cette personne, le plus proche possible, pardon. Autrement, cela risque de devenir une contrefaçon. Soit j'imite et je ressemble de plus en plus, soit j'imite et je fais une contrefaçon. Vous saisissez ? La nuance ? La différence ? Alors, quelle est cette autre facette que Jésus va manifester aux yeux de tous ses disciples, de tous les suiveurs, de tous ses apôtres ? Quelle est cette deuxième facette ? Dans l'évangile de Jean, il est écrit que Jésus est venu, il est descendu sur cette terre. Il est descendu dans ce monde. Il a quitté son ciel de gloire pour venir. Il a pris un corps semblable au nôtre pour être des nôtres. Pour être des nôtres. Et pour être le révélateur. Jean 1,11, il est venu chez les siens. Vous pouvez imaginer, il est là, il est présent. Je peux le toucher, je peux l'entendre, je peux l'écouter. C'est ce que Pierre dira d'ailleurs, Jean dira. Hein. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Hein. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais Jésus vient pourquoi sur cette terre ? Pourquoi est-ce qu'il est descendu de son ciel de gloire ? Pourquoi est-ce qu'il est venu sur cette terre ? D'ailleurs, c'est intéressant. Il n'est pas dit que Jésus est resté en périphérie du monde. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Cabrel, moi j'aime beaucoup Francis Cabrel, et il y a un de ses chants qui nous dit que Dieu s'est assis sur le rebord du monde pour voir ce que les hommes en ont fait. C'est dommage qu'il n'a pas la suite de l'histoire, ou qu'il ne la reconnaît pas. Il n'est pas resté sur le rebord du monde, il n'est pas resté sur le rebord de ton monde. Il est descendu dans notre monde, et il veut descendre dans notre monde à nous. Pourquoi ? Alors ça c'est l'aspect délicat. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire qu'on va être révélateur d'une attitude, on va être révélateur d'un état d'esprit, d'un état de fait, et on va révéler le péché. Et ça, ce n'est pas agréable. Ce n'est jamais agréable de devoir révéler le péché. Je ne vais pas m'allonger, mais vous savez combien Jésus a commencé de souffrir à cause de cela. S'il était venu, qu'il avait... brosser le poil dans le bon sens à chacun, les hommes religieux en premier, Ah, on l'aurait reçu comme le plus grand des rabbis de l'histoire d'Israël. Mais Jésus va à contre-sens, parce qu'il est venu dans un but précis, révéler notre état réel aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Et c'est l'état de péché. Et on a eu pas mal de messages tous ces derniers temps sur le péché, sur ce que c'est et sur ses conséquences. Donc Jésus va souffrir. Cela fait partie aussi de sa vocation. Dans un sens, il est le bon berger qui prend soin de ses brebis et qui les bénit. Mais dans un autre, il rentre dans le monde. Il rentre de front dans le monde. Et il ne se gêne pas de dire au monde, « Oui, vous êtes pécheurs. » Alors il le dit avec grâce. Il le dit avec vérité. Il n'est pas en train d'asséner des coups sur la tête des gens. Mais il le dit et il le fait. Il est révélateur de cet état. Et là, je parle pour moi-même, mais moi j'appréhende beaucoup ces moments-là. Je ne sais pas comment vous réagissez. Quand il s'agit d'imiter Jésus dans cette sphère-là, dans cette facette-là de son ministère, de sa vie, moi j'ai beaucoup de peine. Pourquoi ? Parce que presque, je ne sais pas si c'est inconscient ou conscient, mais on sait qu'on prend des risques et on se met à découvert. Si je vais être révélateur du péché dans le monde, je vais aussi être confronté à des choses très difficiles. Est-ce qu'on est conscient que si on est des signes et des présages dans notre monde, on peut tout perdre? En tout cas, dans ce monde. On peut perdre son conjoint. Moi, j'ai connu des couples qui se sont séparés parce que l'un des deux était devenu chrétien. Et sa présence était devenue tellement insoutenable que l'un des deux est parti. On pourrait prendre plein d'exemples, peut-être qu'il y en a parmi vous. Tous les problèmes que cela pose dans la famille. Moi, je me souviens quand je me suis converti, mais je ne savais pas comment faire pour en même temps vivre cette vie chrétienne en moi et puis dire à mes parents, ben oui, le dimanche matin, je vais à l'église. Mais toutes les combines que j'ai trouvées au début, je vais à l'apéro. Non, mais dans ma tête, c'était, je vais prendre Sainte-Seine, comprenez, c'est... Je jouais. Pour Dieu, c'était, je vais prendre la Sainte-Seine, puis moi, ben, je vais prendre l'apéro. Des amis m'ont quitté, ou moi je les ai quittés parce que je ne pouvais plus vivre en harmonie avec ce qu'ils étaient et ce qu'ils disaient. Donc on prend des risques. Jésus a pris ce risque et il s'est retrouvé sur la croix. Comprenez? Donc si on veut être imitateur de Christ, on ne peut pas faire l'économie de cette sphère-là. Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter de chanter des chants et de ne pas les vivre. Là, je suis peut-être un peu dur, mais je suis à mon égard. C'est comme si je ne vous voyais pas ce matin, que je me parle à moi-même. Je me dis, prends mon âme, prends mon corps, je te donne tout. Ouf. Ouf. Pas si sûr que ça, hein? Alors dans la première sphère, pas de problème. Ah, moi je te donne tout, hein, tous mes problèmes, le pasteur est là, les anciens sont là, les gens prient pour moi, mes difficultés, mes luttes et mes combats, alors là, pas de problème. Mais dans la deuxième sphère, je peux pas dire n'importe quoi là. Je peux pas jouer là. À un moment donné, il y a quelque chose de sérieux qui entre là. Je dois être sérieux avec le Seigneur. Je peux pas jouer avec lui. Je ne peux pas chanter des chants et puis je sors de la salle ici, de mon petit ciel, de ma petite zone de confort, de mon lieu agréable et passer à côté. Moi, voilà, ça m'a parlé à moi premièrement. Hein. Donc si on veut être des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées dans ce monde, on ne peut pas ignorer cette autre facette. Elle est incontournable. Il y a l'Église et il y a le monde. Il y a l'Église et il y a le monde. Et nous sommes des signes et des présages autant dans l'Église que dans le monde. C'est pour le monde que Dieu a envoyé son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que... C'est pour le monde. Et là, reconnaissons-le, il n'y a pas d'autre alternative que de se rendre visible, de porter un message et de dire très clairement ce qui va se produire dans ce monde. Ça vous secoue un peu, comme moi j'étais secoué. Je dis, waouh Seigneur. Si l'Église reste dans cette atmosphère cotonneuse, ou se cantonne dans ce petit bout de ciel de Nord 116, elle va manquer la cible. Je vous le dis nous allons manquer la cible. Et un autre terme signifie péché. L'Église pêche, c'est-à-dire qu'elle passe à côté de son appel, de sa vocation, de son ministère. On ne peut pas dire oui, oui pour ça, moi je ne suis pas trop concerné. Il y a des ministères pour ça, il y a des appels, des grandes vocations. Non. Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel des armées dans ce monde. Enfin, si je le veux bien. Mais il faut être sérieux jusqu'au bout. Mais si elle prend en compte cette Église avec sérieux, courage, persévérance, si elle relève le défi de cette autre sphère, elle va toucher au but dans le mille. Regardez l'Église primitive. Hein? C'est une preuve évidente pour nous encore aujourd'hui. Quand on voit cette bande de pleutres à Nord-Sensèze, hein? Fermer tous les volets, tout, seulement à cause des voisins qui n'aiment pas notre musique, mais tout dans la nuit, ils disent, oh Seigneur, on n'en peut plus. Puis le Seigneur, il traverse ces murs de peur, de crainte, d'appréhension, de honte, de tout ce qu'on voudra. Puis il dit, je suis là. Ils sont où les suiveurs de Christ? Ils sont où les disciples de Christ? Ils sont où les apôtres de Christ? Hein? Ben, on va les retrouver dans le monde. Et on s'extasie de voir ce qui s'est passé dans les actes des apôtres. Dire, waouh, si ça pouvait être possible aujourd'hui. Ben oui que c'est possible. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu, il n'est pas du côté du monde. Il est de mon côté. Alors, je termine. Et comprenez-moi bien. Hein? Ouais, juste acte 2, 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Hein? Donc l'Église était très présente dans le monde, elle était très présente dans l'Église. C'était une Église selon le cœur de Dieu. Alors, comprenez-moi bien, mon désir ce matin, c'est surtout pas de vous culpabiliser. Parce que le sentiment de culpabilité ne sert de rien pour moi. Je ne sais pas si vous rappelez la petite pense-bête que je vous avais donnée il y a quelques temps en arrière. Ces étapes par lesquelles nous sommes appelés à passer. Des fois, on n'est même pas conscient. On ne sait même pas qu'il y avait cette étape-là qui peut me permettre de grandir, d'évoluer dans mon état de suiveur de Christ à disciple, de disciple à apôtre. Et on oublie. Et on ne sait pas pourquoi notre vie chrétienne, voilà, elle stagne, ça reste un petit peu en stand-by. Le sentiment de culpabilité, il mène nulle part. Je dirais même que ça arrange beaucoup Satan, la culpabilité. Parce que quand les gens sont dans la culpabilité, ils n'avancent plus, ils ne reculent plus. Ils sont là en stand-by. Ils sont comme paralysés par la situation. Est-ce que tu es paralysé par la situation? Est-ce que je suis paralysé parce que je suis appelé à imiter Jésus dans ces deux sphères que je viens de rappeler? Hein? Alors, il y a un chemin, j'aimerais le rappeler ce matin. Il y a une route nouvelle et vivante. Il y a des étapes par lesquelles on peut passer, sur lesquelles Satan n'a aucune prise. Aucune. Si je passe par ces étapes, je suis à coup sûr dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de faire de moi un signe, un présage. Alors, et je termine, plutôt que de rester dans la culpabilité, plutôt que de rester comme hypnotisé par la situation, mais faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire. Individuellement, en Église, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on peut reconnaître notre état de péché. C'est-à-dire, encore une fois, ce mot péché, s'il est mal compris, il peut devenir vraiment très lourd. Mais si je me dis, je suis en train de passer à côté de la cible et il faut juste que je corrige le tir pour tirer au milieu de la cible, c'est pas si terrible que ça, d'accord? Vous avez tous, à un moment donné de votre vie, essayé avec une arbalète de tirer dans une cible et vous avez tiré 10 fois à côté. Il n'y a personne qui était à côté de vous dire, stop, fini maintenant, tu ne tires plus avec l'arbalète, c'est prêt, t'es nul. Non. Dis, vas-y, tu corriges un peu le tir, et tu te mets bien en face et tu vas. Et tout d'un coup, paf, on attrape la cible. Pas dans le mille tout de suite, mais déjà dans le 10 ou le 20. Hein. Donc, dans ces moments-là, ayant les regards sur Jésus, pas sur le pasteur, pas sur l'Église, pas sur d'autres chrétiens, là vous les oubliez. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi, je peux lui dire, Seigneur, au secours, là, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça fait des années que ça me travaille. Je n'y arrive pas. Mais je te confesse cette chose-là. Vous comprenez pourquoi il y a cette étape de la confession ? On dit, oh, les catholiques, ils ont leur truc dans un coin, leur petite butte, ils vont confesser leurs péchés. Nous, on ne veut plus vivre ça. Mais on a laissé complètement de côté la confession. Qui c'est qui se confesse encore aujourd'hui dans nos églises évangéliques ? Mais quand moi, je suis confronté à cette situation, je reconnais devant Dieu, je confesse devant Dieu que j'ai la trouille, que j'y arrive pas, que ça me dépasse, que je ne trouve pas les forces en moi. Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur ? Il va vous laisser dans votre état de confession ? Ben non, il va vous amener dans la repentance. Je vais me repentir de ça. Je dis, mais Seigneur, tu ne m'as pas sauvé que pour goûter au ciel sur la terre dans l'église. Tu m'as aussi sauvé pour que je sois présent dans ce monde de manière tellement diverse, mais pour être un signe, un présage dans ce monde. Et j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Et je fais semblant que ça ne t'amène à rien tout ça. Donc je continue le chemin. Si je me repens, si je confesse, si je me repens, il y a quelque chose de divin qui va se produire. Ce n'est pas possible puisqu'il dit, voici le chemin, marchez-y. Et là, seul le Saint-Esprit peut traverser nos murs, nos peurs, nos craintes, nos appréhensions, nos mensonges. Excusez-moi, mais c'est quand même un mensonge de dire, je te donne ma vie puis je ne donne pas tout. Je suis en train de te donner ma vie, oui. Mais il y a des choses que non. Et là, on commence d'être en vérité. Là, on commence d'être vrai. Et là, il faut bien regarder Jésus dans les yeux. Il ne faut pas regarder à côté. Il est là pour ça. Et alors, moi, je le crois, personnellement, je le crois vraiment. Quelque chose de l'ordre de Dieu va se faire. Qui aurait pensé que ces 120 dans la chambre haute se retrouveraient quelque temps plus tard au milieu de la ville de Jérusalem en train de proclamer, d'être visible ? Hein, de proclamer un message qui dépasse l'entendement et de prédire l'avenir pour Israël et le monde. Mais ça, c'est fait. C'est une réalité. Donc, voilà, ça m'ouvre un chemin de libération. Ça m'ouvre un chemin d'espérance. Ça m'ouvre à une foi encore décuplée. Parce que oui, c'est possible, mais il faut faire ce qui est juste. Il faut arrêter de faire semblant de faire juste. Ça devient de la contrefaçon. Et le cœur de Dieu est attristé par notre contrefaçon souvent. Comprenez ça ? Par ma contrefaçon à moi. Je ne juge personne ce matin. C'est juste pour vous dire, arrêtons. Arrêtons de jouer à ce jeu-là. Soyons vrais, parce que Jésus a été vrai jusqu'au bout. Hein ? Il est venu dans ce monde plein de grâce et de vérité. Alors je m'arrête là. Je crois que si on est vrai, le Seigneur va nous conduire soit en église, soit individuellement, au centre de la cible. C'est pas possible autrement. Et je ne sais pas comment il va le faire, mais il peut le faire. Alors peut-être que vous avez besoin de temps ce matin, parce que moi, ça fait une semaine que j'y réfléchis. J'ai pu passer par certaines de ces étapes. Donc voilà, il y a les personnes ici qui ont besoin d'intégrer, de réfléchir, peut-être de vivre ces étapes. Et puis ce matin, il y en a peut-être d'autres qui disent « Waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin, aujourd'hui. » Parce que ça fait des mois, peut-être même des années, que je suis entre deux eaux, que je n'arrive pas. Il faut qu'on se donne en Église ces moments-là, ces moments de vérité. Pas besoin de l'exprimer forcément, mais de le vivre. Et j'aimerais pouvoir donner, avant ce moment de Sainte-Cène, la possibilité aux personnes qui, ce matin, maintenant, il y en a peut-être une, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 20, je ne sais pas, disent « Ok Seigneur, maintenant c'est le moment de vérité. Maintenant je me lève. » Je ne veux plus être seulement un suiveur. Je ne veux plus être seulement un disciple. Je veux devenir un apôtre. Quelqu'un qui est envoyé en avant. Quelqu'un qui devient visible. Je ne sais pas comment Dieu va faire ça. Mais laissez-vous surprendre par Dieu. N'essayez pas d'imaginer vous-même comment vous allez être un signe. Si vous lui dites « Oui, je veux être un signe, un présage », il va le faire. Et vous serez tout surpris. Dire « Oh là là, on a un Dieu créateur quand même hein. ». Il en a des idées à revendre. Non, c'est gratuit. C'est incroyable. Et moi, j'aimerais encore me laisser surprendre de cette manière-là. Je vous bénirai jusque dans votre blanche vieillesse. Hein ? Donc faisons silence quelques instants maintenant. Et puis si les paroles de ce message, le cœur de ce message est pour toi ce matin, n'hésite pas. Il y a des temps de Dieu, on ne sait pas pourquoi. Il y a des temps de Dieu qui sont là. Et c'est le moment de faire ce choix, de le signifier. Alors encore une fois, tu n'es pas obligé de le faire ici. Tu peux le faire à la maison, dans ta chambre, là, dans le lieu secret, ton père te voit. Mais c'est bon dans l'église, parce qu'on peut prier les uns pour les autres. Si tu as la pétoche, si tu ne sais pas quoi faire avec cette deuxième sphère, tu peux ce matin te lever et dire, Seigneur, ok, ce matin, je te donne cette partie de ma vie. Et tu sauras quoi en faire. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que wow, c'est incroyable, parce que tu nous invites à vivre en vérité avec toi. On est tellement habitué dans ce monde à vivre de demi-vérité. On est tellement habitué dans ce monde à vivre dans le mensonge, à contourner les obstacles, à louvoyer, à faire comme on peut faire. On se débrouille, on va avec les moyens du bord. Mais jamais tu nous as demandé cela. Si tu as fait de nous tes enfants en Jésus-Christ, ah, c'est parce que tu sais ce que tu veux faire avec chacun de nous. Et nous voulons te bénir ce matin pour tous ces hommes et ces femmes qui ont été des exemples pour nous tout au long de notre ministère, de notre vie chrétienne. Merci pour chacun d'eux parce que tu as fait descendre dans leur vie exactement ce dont ils avaient besoin pour être signe et présage dans toutes sortes de domaines. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors Seigneur, j'aimerais vraiment qu'on puisse vivre ce moment en vérité devant toi. Merci d'être venu révéler le péché, ce qui nous empêche d'aller au centre de la cible. Et merci de ce qu'on peut confesser notre péché. Merci de ce qu'on peut se repentir et ensuite te laisser agir, toi, Seigneur, dans cet espace de vérité. Je te prie, Seigneur, pour celles et ceux qui ce matin voilà, veulent faire ce pas, et je vous invite à vous lever à votre place. Il n'y a rien à cacher, on est tous la même enseigne, on est tous, on fait tous partie des 120 dans la chambre haute. Voilà. Mais peut-être que c'est votre moment ce matin, on aimerait vous bénir dans ce moment-là. Amen. Et là, à voix basse ou dans votre cœur, vous pouvez confesser cette situation. C'est l'arme la plus extraordinaire que Dieu nous donne vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis de Satan, vis-à-vis du péché. Quand quelqu'un confesse son péché, c'est un mur infranchissable qui s'élève entre lui, le monde, Satan et tout, voilà. Hein? C'est un mur infranchissable, c'est un endroit privilégié où là Dieu va commencer de pouvoir nous parler, parce qu'on est en vérité. Amen, amen, amen. Confessons, repentons-nous devant le Seigneur, c'est tellement bon Seigneur. Merci pour le chemin que tu as ouvert devant nous. Merci pour ces étapes dans lesquelles tu nous attends, Seigneur. Merci de ce que je peux me repentir, Seigneur, d'échapper continuellement à cette sphère dans laquelle tu veux m'entraîner aussi. De manière tellement créative, de manière tellement surprenante parfois. Et moi, j'ai peur, Seigneur. Et moi, je te dis non, 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 Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, je confesse, je me repens de cela. Je ne veux pas que ça aille une part dans ma vie, cette vie que je t'ai donnée, Seigneur. Et c'est pourquoi je te demande ce matin de nous visiter, individuellement, mais en église aussi. On t'apporte aussi toute l'église de la Chaux-de-Fonds, Seigneur. On peut être des centaines et des centaines à être signes et présages dans cette ville de la Chaux-de-Fonds. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir si souvent menti, d'avoir si souvent péché, d'avoir si souvent passé à côté de ce que tu avais pourtant préparé pour nous. Alors merci de nous rencontrer maintenant, Seigneur, peut-être dans ce moment, peut-être à la maison, peut-être ailleurs. Mais fais de nous, Seigneur, ces apôtres, ces signes et ces présages, que nous puissions être rendus visibles, même face à une personne, Seigneur, peu importe, face à des foules peut-être, peu importe. Donne-nous de pouvoir proclamer ce message extraordinaire. Donne-nous d'être révélateurs. Et puis donne-nous de partager ce qui va arriver dans les temps futurs, ton retour. Merci de bénir mes frères et sœurs, Seigneur. Merci de les prendre dans tes bras, Seigneur. Et de leur parler individuellement, cœur à cœur, en vérité, à la gloire de ton nom. Amen.